J'ai préparé quelques réflexions. Cyril m'avait dit qu'il fallait que ça soit un peu informel, un peu. Alors j'ai d'une part préparé ces textes et la sélection s'est faite de la façon suivante. J'ai donné d'abord un texte archi connu de John Locke, qui rassemble plusieurs des thèmes qui vous sont déjà connus par vos propres recherches et par les exposés qui ont déjà eu lieu. Et ce que je compte faire, c'est moins me livrer à une interprétation de Locke ou à une interrogation sur les suites que la philosophie peut donner, a pu donner et donne encore à l'opération philosophique qui se produit chez Locke et que j'appellerai au cours de cet exposé la subjectivation du concept de personne. Alors c'est pourquoi j'ai donné ce texte de Voltaire qui donne en quelque sorte la version en français de Locke avec les problèmes que l'on trouvera. Et ensuite, deux destins du dualisme de Locke, l'un illustré par un texte de William James et l'autre par un texte de Proust. Je vois que sur ma feuille, est-ce lequel, il y a écrit la référence de Locke, il y a chapitre 27, paragraphe 2. Je ne sais pas pourquoi il y a paragraphe 2, il faut l'enlever, n'est-ce pas? C'est le paragraphe 15. Mon titre, c'est le suivant, être soi-même le même à ses propres yeux. Alors, ce titre, je l'extrais du texte de Voltaire, au début du second alinéa. Ce qui constitue la personne de Jacques, ce qui fait que Jacques est soi-même et le même qu'il était hier à ses propres yeux, c'est, etc. Bon. Donc, voilà la philosophie de la personne. La philosophie de la personne est une philosophie de l'identité personnelle. Alors, je partirai de la considération suivante. Si nous reprenons cette formule de Voltaire, et en la généralisant, donc ça donne mon titre, être soi-même le même à ses propres yeux. La question évidente du sens de cette expression, c'est cette insertion de la précision à ses propres yeux. Et donc je pars du fait que Voltaire exprime à la troisième personne une idée qui est censée trouver son sens à la première personne, puisque les propres yeux sont les propres yeux du sujet en question. Nous avons donc un contraste entre la première personne et la troisième personne à propos de l'identité. Et au fond, ce qui se dessine ici, c'est de savoir si la question de savoir si il y a conflit ou pas. Quelle différence y a-t-il entre être soi-même et être soi-même à ses propres yeux? Donc, voilà ma question de cet exposé. Est-ce que la différence entre être soi-même tout court, je dirais presque simpliciter, n'est-ce pas, si nous étions au Moyen Âge, être soi-même tout simplement, et puis être soi-même à ses propres yeux, est-ce que cette différence, c'est la différence de deux points de vue sur le même fait, ou est-ce que être soi-même à ses propres yeux introduit autre chose que être soi-même? Si nous avons deux points de vue sur le même fait, on peut imaginer un conflit. Et alors ce conflit, il faudrait l'exprimer non pas en disant qu'il y a être soi-même d'une part et puis être soi-même à ses propres yeux, mais il y a être soi-même aux yeux des autres et être soi-même à ses propres yeux. Et donc nous avons un conflit, je dirais, phénoménologique dans un sens non doctrinal, non pas forcément husserlien, un conflit entre deux points de vue. Et au fond, c'est ainsi que Locke est interprété dans la psychologie française, et en particulier dans Condillac. Car si vous regardez le traité des sensations avec la fameuse statue, le point de départ, c'est que la statue n'est pas à ses propres yeux ce qu'elle est à nos yeux à nous. Puisque à nos yeux à nous, la statue est une statue, et à ses yeux à elle, la statue est une odeur de rose. Donc il y a conflit entre ce que nous disons de la statue et ce que la statue dirait d'elle-même si elle disait quoi que ce soit. Ça, c'est l'hypothèse du conflit, qui est l'hypothèse donc de deux points de vue sur la même chose, un point de vue qui est celui de la première personne et un point de vue qui est celui de la troisième personne, ou bien y aurait-il deux identités en cause? Une identité objective, si on peut dire, qui serait donc l'identité tout court, être soi-même, être lui, n'est-ce pas? Jacques est-il Jacques? Et puis une autre identité qui serait donc subjective, et à ce moment-là, il n'y aurait pas de conflit entre deux points de vue sur la même chose, mais il y aurait malentendu dans la question, est-il le même? Bon, alors ça, c'est l'explication littérale du titre. Et ce titre me servira de porte d'entrée dans le débat qui est au fond celui de l'identité personnelle pour les philosophes depuis le XVIIe siècle et de porte d'entrée dans la question de savoir si le concept de personne est problématique comme on a pu le dire. Pourquoi le concept de personne serait-il problématique? Autrement dit, pourquoi y aurait-il lieu de préciser, réviser, redéfinir le concept de personne comme Locke tente de le faire par l'opération que je vais essayer de préciser, de formuler, qui est l'opération de subjectivation. Quels sont les motifs, en somme, qu'on avance en général pour justifier l'idée que ce concept de personne exige une intervention des philosophes, car tel qu'il est, il suscite des difficultés. Une raison qui est donnée, c'est que le concept de personne, au fond, a des sources variées et qu'il est mal unifié. Et en effet, je ne sais pas si j'ai oublié de le rappeler, mais enfin, c'est très bien expliqué dans son petit livre, Qu'est-ce qu'une personne? Là, il a rassemblé les éléments de l'histoire du concept de personne. Donc, il y a la source théologique, il y a la source juridique, il y a la source théâtrale, et il n'est pas évident que tout ça donne un concept unique, il faut donc l'unifier. Mais en réalité, je pense que le véritable motif qui joue, serait plutôt le suivant. C'est que ces trois sources nous semblent un peu archaïques entre la source des débats sur la Trinité, la source du droit romain, la source du prosopone et du masque. Bon, tout ça c'est très bien, mais il manque, semble-t-il, le plus important qui serait une source phénoménologique, c'est-à-dire la psychologie. Ce qui est frappant, c'est que ni la théologie, ni le droit ni le théâtre grec ne font de la psychologie. Or, il pourrait sembler que la source principale d'une idée quelconque de l'être personnel, ce serait le sens, l'expérience, la conception que chacun a de lui-même. Et dans les histoires monumentales, glorieuses de la philosophie, on vante souvent donc la philosophie classique, la philosophie du XVIIe siècle, comme précisément celle qui a découvert ou ouvert la voie à une exploration en première personne du concept de personne. tout d'un coup, n'est-ce pas, le concept de personne, au lieu d'être tiré de domaines étrangers à l'expérience de soi, ce concept serait ancré dans la vie psychologique de chacun. Mais alors, c'est à ce moment-là que nous dit-on, là je ne donne pas ma propre version des choses, je vous rappelle des faits de l'histoire des idées. Donc ce qu'on ajoutera, c'est que le moment où on veut ajouter la source phénoménologique ou psychologique aux différentes sources du concept, ce moment-là révèle que le concept est problématique parce qu'il apparaît que nous avons plusieurs façons d'identifier une personne et que donc il y a par exemple un conflit entre des critères physiques et des critères psychologiques. Autrement dit, l'idée banale maintenant que du point de vue extérieur ou du point de vue des autres, le critère qui va jouer, c'est le critère de la biographie, de l'état civil, critère disons objectif, mais ce critère pourrait ou même peut entrer en conflit avec le critère qu'applique le sujet lui-même en première personne, qui est le critère psychologique. Donc continuité physique ou continuité psychologique. C'est ainsi qu'on présente les choses. Et parfois, on attribue donc à Locke le mérite d'avoir révélé cette disparité possible des critères d'identité. Je ne pense pas que ce soit la bonne interprétation de Locke, mais c'est certainement ce qu'on lit dans les dictionnaires, les anthologies sur l'identité personnelle. Alors, je vais introduire quelques notions, non pas techniques, mais je vais faire quelques stipulations conceptuelles pour préciser un peu cette idée de à ses propres yeux, c'est-à-dire l'idée de subjectivité. Et je voudrais ici attirer l'attention sur le fait que nous avons plusieurs concepts de subjectivité, ce qui veut dire que dans une réflexion sur la première personne, il faut choisir entre deux lignes possibles du point de vue du lexique. Ou bien on peut dire que la subjectivité, c'est ce qui s'exprime à la première personne. Donc il y aurait équivalence, n'est-ce pas? Première personne égale subjectif. Subjectif veut dire exprimer, penser, vécu, exister à la première personne. Et alors il nous resterait maintenant à analyser la subjectivité, à rendre compte de ce que nous voulons mettre dans cette classe de la première personne. Ou bien, subjectivité, c'est déjà une explication, n'est-ce pas? Nous avons une théorie de la subjectivité à l'aide de laquelle nous voulons rendre compte de la première personne. Alors à ce moment-là, il ne faudrait pas dire première personne, donc subjectivité, puisque la subjectivité, dans cette deuxième manière de procéder, serait une philosophie possible de la première personne. Alors, nous ne sommes pas là pour légiférer sur le langage, donc il me semble que subjectivité est pris normalement comme équivalent de première personne, donc je me range du premier côté. Ça veut dire qu'en disant subjectif, je n'ai pas encore une théorie de la subjectivité. Et non pas, je sais ce que c'est que la subjectivité, et donc j'ai une théorie de la première personne, qui est que par exemple, pour les gens qui sont capables d'employer la première personne, sont des gens qui ont découvert leur self. Ça serait une théorie de la première personne par l'appel à une théorie de la subjectivité qui serait une égologie, une théorie du self. Bon, donc moi, mon procédé, ça sera le premier. Le mot subjectif est vague et il s'emploie en différents sens. Alors, je vais avoir besoin de deux des significations de subjectivité pour dire un mot des textes qui sont que je vais expliquer en indiquant quel est le procédé, quelle est la technique que les philosophes ont utilisé, donc technique que nous connaissons, en vue de révéler ce type de subjectivité. Alors, il y aura un premier type de subjectivité, qui est en réalité l'intentionnalité, que nous pouvons manifester, que nous pouvons exprimer par la technique du discours au style indirect, oratio obliqua. Alors, j'en dis un mot. J'en dis un mot en. Je fais quatre remarques sur le discours au style indirect. Donc, qu'est-ce que c'est que la technique, qu'est-ce que c'est que le procédé du discours au style indirect? Eh bien, c'est tout simplement un procédé qui nous permet de faire parler quelqu'un d'autre quand ce quelqu'un d'autre n'est pas là pour s'exprimer lui-même ou qui. Il est disparu, enfin, donc, quand le locuteur que je suis s'institue en porte-parole de quelqu'un d'autre. Il est commode de prendre le discours au style indirect dans un sens plus large que le sens strictement linguistique et de dire que toute technique permettant au locuteur de rapporter le propos de quelqu'un d'autre, on peut l'appeler discours indirect. Donc il faut inclure dedans la citation littérale, ainsi que le discours au style indirect, n'est-ce pas, à côté du discours au style indirect proprement dit des linguistes, qui est comment dire, qui consiste dans un discours que je fabrique à la troisième personne, mais que je place dans la bouche de quelqu'un d'autre. Le fait d'ouvrir les guillemets, c'est aussi une façon de rapporter ce qu'a dit quelqu'un, donc je le mets dans le style indirect. Et donc les philosophes ont attiré l'attention sur le fait que la technique le procédé du style indirect permet de respecter la façon dont la personne dont je rapporte les propos a exprimer une situation, donc à la fois ses appréciations, sa vue des choses, et la manière dont elle a désigné les objets auxquels elle a fait référence. Donc son mode de référence, c'est cela qui est respecté par le discours indirect et qui donc ne relève pas de la responsabilité du locuteur lui-même. Alors tout ça est bien connu, je n'insiste pas. Mais c'est ce dernier point, c'est-à-dire le fait de pouvoir reproduire le mode de référence utilisé par celui dont je rapporte les propos, c'est cela qui permet de se servir du procédé du discours au style indirect pour manifester l'intentionnalité des pensées par une extension du langage à l'esprit. Puisque je peux reproduire, grâce au style indirect, la manière dont quelqu'un a parlé du monde, je peux du même coup exprimer ce qu'il a pensé du monde, qu'il l'ait dit ou qu'il ne l'ait pas dit, en faisant comme si il avait produit un discours sur le monde que je reproduis. Donc, à partir de l'idée que toute pensée est exprimable, qu'elle ait été exprimée ou non, n'est-ce pas? Il me revient de faire penser quelqu'un, de même que je peux le faire parler. Donc ça, c'est le deuxième point, à savoir que l'intentionnalité des pensées, c'est ce qu'on appelle intentionnalité des pensées, on le manifeste en procédant à la construction intentionnelle des verbes, et procéder à la construction intentionnelle des verbes, ça veut dire donner à ces verbes des objets qui seront désignés ou décrits ou définis dans les termes que le locuteur a utilisés ou dans les termes que le locuteur aurait utilisés, et non pas dans les termes que moi j'utiliserais plus volontiers ou plus commodément si c'était moi qui tenait le discours. Donc la théorie du style indirect est une théorie de l'intentionnalité par cette extension. Alors, troisième point, L'extension qui nous permet d'aller du langage à l'esprit a un trait qui est intéressant pour ce qui nous concerne ici, qui est qu'elle, cette extension respecte un élément qui est indispensable pour le concept de personne dans quelques traditions, à quelques sources qu'on emprunte, et qui est le caractère anthropomorphique de la personne. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? D'abord, tout simplement, c'est certain que l'idée même de personne est anthropomorphique, car si on remonte à l'idée du masque, du prosopone grec, en quoi ça consiste? Ça consiste à mettre un visage sur quelque chose. Donc, si je mets un visage sur un être humain, là, il y a une sorte d'opération blanche, puisque je donne à quelqu'un un visage humain, à un homme, je donne un visage humain à un être humain. Mais si nous faisons intervenir dans l'action dramatique les dieux, eh bien, il faudra que ces dieux revêtent un visage humain pour parler. Il faut. Donc, vous voyez, c'est une des clés du débat sur l'identité personnelle. Le concept de personne, comme l'attestent ses origines théologiques en particulier, le concept de personne n'est pas équivalent au concept d'être humain. Donc il faut accepter l'idée que les capacités qu'on associe au concept de personne ne sont pas forcément les capacités d'un être humain, mais pour autant que ces capacités personnelles puissent être exercées dans un comportement qu'on peut raconter, qu'on peut mettre en scène, il faut que ce comportement ait un caractère anthropomorphique. Du coup, en respectant le concept de personne, nous respectons la grammaire des verbes psychologiques. J'emploie ici le terme de Wittgenstein pour dire ceci, n'est-ce pas? La psychologie n'est pas réservée à l'être humain. Donc nous pouvons donner une psychologie à d'autres êtres vivants ou à des créatures fictives, mais cette psychologie ne sera une psychologie que si elle ressemble à notre psychologie. Et c'est en ce sens qu'elle est anthropomorphique. Alors je mets ça sous l'autorité du texte de Wittgenstein qui est bien connu. C'est le paragraphe 281 des recherches philosophiques. Le voici. Donc, c'est seulement de l'homme vivant et de ce qui lui est semblable, de ce qui se conduit de façon semblable, que l'on peut dire qu'il a des sensations, qu'il voit, qu'il est aveugle, qu'il entend, qu'il est sourd, qu'il est conscient ou inconscient. Ça ne veut pas dire que seul l'être humain voit à des sensations. Ça veut dire que si les chiens ont des sensations, c'est parce que le comportement du chien permet de dire s'il a vu ou s'il n'a pas vu quelque chose. Et ce comportement d'un chien qui a vu, contrasté avec le comportement d'un chien qui n'a pas vu, nous est compréhensible à partir de la différence que nous faisons entre un homme qui a vu et un homme qui n'a pas vu. De telle sorte qu'on peut comprendre le chien n'a pas vu, ou le chien a vu, le chien a senti, le chien n'a pas senti, le chien est réveillé, le chien dort, mais c'est plus difficile de comprendre que l'araignée dort, ou alors que le limaçon fait d'un rêve, c'est plus difficile parce que le comportement d'une limace est moins anthropomorphique que le comportement d'un chien. Et alors, ce point est fondamental pour ce qu'il y aura à dire des textes, si j'ai le temps d'en parler, parce que l'idée selon laquelle les concepts psychologiques sont attribuables à une personne, n'est-ce pas? Être une personne, c'est avoir une psychologie. Donc, les concepts psychologiques exigent un comportement que l'on peut décrire en termes anthropomorphiques, commande quelque chose que on peut appeler la possibilité d'enchaînement narratif intelligible. Autrement dit, les verbes du type de ceux que donne en exemple Wittgenstein, n'est-ce pas? Sentir, voir, être aveugle, entendre, être sourd, être conscient, tous ces états psychologiques, nous les signifions par des verbes, et ces verbes en réalité emportent avec eux tout un réseau d'autres verbes qui soutiennent leur sens. Ce qui veut dire que, par exemple, le verbe voir, en réalité, on ne peut pas l'appliquer à une expérience isolée, coupée de l'histoire du monde, comme si on pouvait décider si l'animal a vu ou n'a pas vu, rien qu'en scrutant l'événement qui s'est produit là. Si l'animal a vu ou s'il n'a pas vu, ce point, comment dire, ne fait sens que si on peut poser différentes questions, à savoir qu'est-ce qui se passe ensuite ou qu'est-ce qui s'est passé avant. Il faut qu'on puisse raconter. Il faut qu'on puisse, n'est-ce pas, tout emploi d'un verbe psychologique doit pouvoir donner lieu à un élargissement narratif. Donc on peut imaginer ce qui s'est passé avant, ou on peut faire des hypothèses sur ce qui a pu se passer avant, ou sur ce qui passera après, en fonction du verbe psychologique qui a été employé. Et donc ça, je l'appelle principe de l'intelligibilité des enchaînements narratifs. Il y a des questions qui sont, y a des questions qui sont autorisées du seul fait qu'on a attribué une perception visuelle à un être vivant. Si, alors, le concept est-il défini une fois pour toutes? Est-ce qu'il ne peut pas être modifié? Certainement, il le peut. Mais, si vous voulez, pour apprécier l'emploi qui sera fait dans une théorie d'un concept psychologique, il faut regarder dans quelle mesure il remanie les liens narratifs que nous associons normalement avec ce concept. Et donc, c'est ce qui, pour juste faire allusion à ce point, n'est-ce pas? C'est ce qui rend parfaitement opaque un discours qui dirait mon cerveau a vu l'oiseau. Parce que normalement, si on voit un oiseau, n'est-ce pas, est-ce qu'on lui a fait peur? Est-ce qu'on est un chasseur? Est-ce qu'on va tirer dessus? Etc. Tandis que toutes sortes d'enchaînements narratifs possibles sont bloqués dès lors qu'on a déplacé le sujet de la vision de l'être humain, et donc de la possibilité d'un comportement, sinon humain, du moins anthropomorphe, à un type de support de l'opération visuelle tellement différent que le comportement qu'on peut attribuer à, dans ce cas-là, au cerveau, est le comportement du cerveau, n'est-ce pas, n'a rien d'anthropomorphique. Inversement, si je dis il y a un ange là qui m'a vu, il faut pouvoir attribuer à cet ange également un comportement anthropomorphique. Donc vous voyez, jusqu'à quel point peut-on anthropomorphiser l'ange ou le cerveau? Voilà la question qui s'ouvre ici. Bon, alors, donc ce principe narratif, c'est celui qui va nous servir pour commenter en fait Voltaire. Alors, dernier point sur la technique du style indirect. La technique du style indirect a ceci de fascinant que elle représente la première personne à la troisième personne. Il a dit qu'il viendrait. Il a dit il a dit que c'est lui qui avait fait l'action. Il a dit ou il dit qu'il fait beau. Nous rapportons la pensée de quelqu'un et éventuellement les paroles qui ont exprimé cette pensée. Nous les rapportons en les mettant dans sa bouche, mais nous le faisons à la troisième personne. C'est nous qui parlons en faisant parler quelqu'un d'autre. Donc il y a une troisième personne qui accueille, grâce au style indirect, un propos à la première personne. Et alors, ce qui est fascinant, c'est de savoir jusqu'à quel point la première personne est en quelque sorte représenter la troisième. Est-ce qu'elle est alignée sur la troisième ou est-ce qu'elle subsiste dans sa spécificité, bien que nous parlions de quelqu'un d'autre? Ça, c'est un point qui se décide en considérant la différence que le locuteur va faire entre le moment où il fait parler quelqu'un et le moment où lui-même parle. Donc là, je vais être un peu dogmatique. Le locuteur doit choisir entre faire parler et parler. S'il fait parler, c'est un autre qui parle. Si c'est lui qui parle, il ne peut pas intentionnaliser, il ne peut pas soumettre ce qu'il dit à une clause d'intentionnalité. Donc là, nous sommes en train de nous interroger sur à ses propres yeux. À ses propres yeux. Si je fais parler quelqu'un, je vais dire ce qu'il en est des choses à ses propres yeux, à lui. Comment puis-je parler de l'état du monde? Comment puis-je parler de la chose à mes propres yeux? Quelle différence y a-t-il entre parler de la chose à mes propres yeux et parler de la chose tout court? Alors ma thèse, c'est qu'il n'y en a pas. C'est le paradoxe de Moore. Il n'y en a pas parce que le moment où je ne fais plus parler quelqu'un d'autre, mais je parle moi-même, au présent, c'est le moment où je dis ce qu'il en est de la chose. Si je veux dire ce qu'il en est de la chose à mes propres yeux, il faut que je me sépare de moi-même et que je me change en quelqu'un d'autre. Alors, il y a une façon de faire ça qui est de dire ce que je pensais des choses. Si je vous explique ce que je pensais jusqu'à il y a une minute des choses, je peux le faire au discours indirect parce que ça laisse ouverte la possibilité que je fais parler quelqu'un d'autre. Une autre technique, c'est celle de la modalité, n'est-ce pas? Je peux vous dire ce que je pourrais penser du monde, mais étant entendu que je ne vous dis pas ce que je pense, je vous dis ce que quelqu'un d'autre, qui pourrait être moi, pourrait penser dans d'autres. Mais ce qui est important, c'est que je ne parle pas en propre personne, car si je parle en propre personne, j'abolis la raison même la raison d'être du discours hostile indirect, qui est précisément de ne pas assumer les engagements ontologiques, les engagements épistémologiques, etc., qui vont avec l'emploi des mots que j'emploie. Donc l'idée que je pourrais dire ce qu'il en est à mes propres yeux, vous voyez, c'est une manœuvre par laquelle je voudrais vous dire ce que j'assume tout en annulant le fait d'assumer ce que je dis. Et donc ce qui est en cause ici, c'est la technique que les phénoménologues veulent utiliser, qui est la technique de l'époquet. La réduction phénoménologique, qui est précisément l'idée que je mets entre parenthèses les assertions d'existence, les véritables engagements ontologiques, et je vous dis maintenant ce qu'il en est à mes propres yeux. Bon, alors, cette technique est-elle concevable de façon universelle? C'est-à-dire, puis-je mettre le tout de moi-même entre parenthèses, tout en restant en dehors pour décrire ce qu'il y a dans mon expérience. Voilà le problème de l'époquet. Alors, tout ce que je viens de dire, ça ne vaut qu'au présent. Comme je l'ai dit, je peux avoir changé d'idée. Et donc, pour autant que je peux avoir changé d'idée, je peux vous raconter mes illusions perdues, je peux vous raconter mes idées d'enfance. Et alors tout ça, je l'attribue à moi certainement, mais je ne le prends plus en compte puisque au présent, je me fais parler au passé. Mais ce qui apparaît impossible, c'est de parler au présent tout en me faisant parler au présent. Car à ce moment-là, qui parle? Donc ça, c'est un peu le rêve phénoménologique, c'est que une instance philosophique transcendantale parle des engagements ontologiques et des assertions et des croyances de quelqu'un en particulier, empirique, qui se trouve être moi, mais sans en assumer les implications. Bon, alors ça, c'est donc une première technique, un premier procédé de subjectivation. Je vais maintenant distinguer d'un autre procédé qui est celui de le procédé de l'intériorité au sens épistémologique. Alors, donc, il s'agit toujours de subjectiver. Alors, qu'est-ce qu'on peut subjectiver? Si vous voulez, puis-je subjectiver cette bouteille d'eau? Comment pourrait-on subjectiver une bouteille d'eau? Il semble qu'on ne peut pas subjectiver une bouteille d'eau parce qu'on ne pourrait plus la boire. Donc, il faut subjectiver plutôt la description de la bouteille, ou disons le concept. On peut subjectiver des concepts. Donc, le second procédé que je vais maintenant introduire, c'est la subjectivation d'un concept. Subjectiver un concept, ce serait peut-être donner un caractère subjectif, soumettre donc à un sujet, faire dépendre de l'état d'un sujet, les critères d'application d'un concept. Et donc là, les critères, quels critères? Bon, donc je voudrais distinguer peut-être trois sortes de critères. Il y a des critères d'application d'un concept. Donc on pourrait imaginer de faire dépendre l'application d'un concept d'un critère purement subjectif. Et ça, c'est justement la thèse des philosophes empiristes, en particulier sur les concepts de qualité seconde. Les concepts de qualité seconde n'ont d'autres critères d'application que des critères subjectifs. Certains concepts, les concepts sortaux, ont non seulement des critères d'application, mais des critères d'identité. Le concept de chien permet de décrire un être vivant comme un chien, mais si on applique le concept de chien à quelque chose, du même coup, la question est légitime de savoir si ce chien est le même que d'autres qu'on a également décrits comme des chiens. Donc il y a des critères d'identité. Et le problème, c'est donc de savoir si on peut subjectiver les critères d'identité associés au concept de sorte. Enfin, il y a une troisième sorte de critères, je ne sais pas si j'aurai le temps de l'utiliser, qui sont j'appellerais des critères de perfection, c'est-à-dire des critères qui permettent de dire non seulement si quelque chose possède un certain attribut ou est d'une certaine espèce, mais si c'est un bon représentant, si c'est un exemplaire typique, si c'est un bon échantillon. Voilà un chien, mais est-ce typiquement un chien? Est-ce que c'est ça le notre exemple même d'un chien. Donc il y aurait trois sortes de critères à subjectiver. Et alors maintenant, quels sont les concepts qui appellent une subjectivation selon une école philosophique? Voici le moment cartésien en philosophie, le moment où on a posé que les concepts psychologiques sont des concepts qui ont des critères subjectifs. On peut et on doit subjectiver les concepts psychologiques. Peut-être pas tous les concepts psychologiques de l'ancienne conception de la psyché, mais certains concepts psychologiques, alors lesquels? Lesquels? Eh bien, chez Descartes, ce sont les concepts qui entrent dans la définition du cogito, ce sont les cogitationes, et Wittgenstein les a redéfinis de façon assez clarifiante, en disant les concepts psychologiques susceptibles les concepts psychologiques qui ont été considérés dans la psychologie cartésienne comme devant être subjectivés, ce sont les verbes psychologiques, c'est-à-dire les verbes qui présentent l'asymétrie épistémologique à la première personne de l'indicatif présent. Et donc depuis, je vois est un concept psychologique à la première personne de l'indicatif présent, et uniquement à la concept, à la première personne de l'indicatif présent, parce que aux autres personnes, ou bien aux autres temps de la première personne, ce verbe n'a pas le caractère de l'asymétrie épistémologique. Aux autres personnes, il faut vérifier. À la première personne de l'indicatif présent, celui qui dit je vois n'est pas tenu de donner des preuves. Il peut donner des preuves de sa sincérité, mais il n'est pas tenu de vérifier s'il ne s'est pas trompé. Bon, ce point est bien connu, mais c'est justement cette décision cartésienne sur les concepts psychologiques qui va retentir non pas chez Descartes qui ne s'est pas posé ce genre de questions, mais bien chez les héritiers de ce point de vue. C'est cette décision qui va faire apparaître un conflit entre deux demandes, deux exigences que nous avons à l'égard des concepts psychologiques. Le fait que ces concepts ont un caractère anthropomorphique, c'était le point de Wittgenstein de tout à l'heure, et maintenant le fait que, au moins pour les principaux, ils ont le caractère du cogito à la première personne de l'indicatif présent, ce qui veut dire qu'ils ne relèvent pas d'une observation à la troisième personne, mais bien d'un rapport à soi, donc d'une subjectivité, ce qui est peut-être le véritable héritage dualiste de la philosophie cartésienne. Chez Descartes, le dualisme, tout le monde sait bien qu'il se présente comme dualisme des substances et place les psychologues, les philosophes, tout le monde devant le problème de l'interaction de ces substances. Mais peut-être que du point de vue philosophique, le véritable dualisme cartésien n'est pas celui-là, ou enfin celui qui est vraiment préoccupant n'est pas celui-là, c'est le dualisme qui, chez Locke et les successeurs, va se traduire par le fait qu'il y a deux sujets pour les verbes psychologiques décrivant quelqu'un. Il y a le sujet à la troisième personne, l'être humain, et le sujet à la première personne, à savoir myself, le self. Alors, encore un pas avant d'avoir le self, c'est quelle est la technique de subjectivation qui suit cette idée qu'on peut, selon les philosophes cartésiens, subjectiver les critères d'application des verbes psychologiques. Le procédé qui va être ici appliqué, on peut l'appeler objectification. Le mot n'est peut-être pas très gracieux, mais il dit bien ce qu'il veut dire. Et en fait, je l'emprunte au cours de Wittgenstein sur les sciences d'État, où il y a un numéro assez drôle sur les sciences d'État et d'où sortent les sciences d'État de la philosophie britannique. C'est-à-dire les idées de l'empirisme, c'est la même chose. Alors Wittgenstein dit, ben, on connaît une figure de style, une figure de langage qui est la personnification. Alors, sur le modèle de l'idée de la personnification, voici comment on pourrait dire que procèdent certaines théories psychologiques. Elles procèdent par objectification. Et son exemple est le suivant. Assertion sur un objet que nous faisons, nous disons, ce costume est sale. Donc nous appliquons le concept is dirty. The suit is dirty. Ce costume est sale. Maintenant, problème d'épistémologie de la perception, angoisse philosophique, n'est-ce pas? Il y a les choses qui sont ce qu'elles ont l'air d'être et il y a les choses qui ont l'air seulement d'être ce qu'elles ne sont pas. Le costume est-il sale ou est-ce qu'il a seulement l'air d'être sale? Donc, proposition numéro 1, le costume est sale, ça c'est l'affirmation naïve. Assertion numéro 2, non, plus prudent, n'est-ce pas? Le costume a l'air sale. It looks dirty. Alors maintenant vient l'opération qui produit les sens d'état, ou les représentations, les entités subjectives intermédiaires entre le sujet et l'objet. C'est-à-dire, pour que le costume ait l'air sale, et cela, qu'il soit sale en fait ou qu'il ne le soit pas, pour que le costume ait l'air sale, il faut qu'il y ait un sens datum, il faut qu'il y ait un représenté, il faut qu'il y ait quelque chose qui est l'apparence du costume, the look. Et donc, si le costume a l'air sale, alors il y a quelque chose qui est sale, c'est son apparence. Donc, troisième proposition, quand le costume a l'air sale, retrait, n'est-ce pas, si je dis le costume a l'air sale, je ne me prononce plus sur le costume, mais il faut bien que je me prononce sur quelque chose, je me prononce sur l'apparence. Et je dis, l'apparence du costume est sale. Et c'est ce troisième pas, n'est-ce pas, passer de le costume a l'air sale à the look of the suit is dirty, n'est-ce pas? Quand le costume a l'air sale, alors l'air du costume, si je puis dire, l'apparence du costume, l'apparence du costume est d'être sale, à ce moment-là, j'ai un sens datum auquel j'applique le concept initial de saleté. Alors évidemment, Wittgenstein est déloyal, si je puis dire, parce que. Il a pris ce concept de saleté exprès. Car si le costume est sale, n'est-ce pas, on l'envoie à la teinturerie. Et maintenant, sa question, c'est comment puis-je envoyer l'apparence du costume? Comment laver l'apparence, n'est-ce pas? Comment Donc il a pris ce concept de saleté qui est un concept que Hans Kohn appellerait substance involving. C'est un concept. Le concept de saleté indique qu'on peut concevoir des opérations de nettoyage, on peut lessive, bon. Tandis que, alors ça on peut le faire sur le costume, qui serait ici la substance, mais pas sur l'apparence, alors que, bien entendu, l'objectification que combat Wittgenstein, l'objectification à laquelle se livrent les philosophes, porte non pas sur des substance involving predicates, mais bien sûr des concepts d'apparence phénoménale, des concepts tels que ceux justement des couleurs, les concepts, et de façon générale, tous les concepts qui ont un contenu expérientiel, comme dirait Wittgenstein, enfin, Erlebnis inhalt. Donc voir, toucher, sentir, tout cela. Donne lieu à une opération d'objectification qui ne se laisse pas aussi facilement ridiculiser que le concept de saleté. Mais enfin, saleté, c'est pas mal parce qu'on voit, c'est sale. Il y a des choses qui ont l'air sales, bien qu'elles ne le soient pas. Donc, c'est un concept intermédiaire. Alors, justement, si dès le moment où nous avons introduit ces entités subjectives, c'est-à-dire les entités qui sont ce qu'elles ont l'air d'être, parce que la différence entre le costume et l'apparence du costume, c'est que le costume, peut-être, n'est pas dans l'état où il a l'air d'être, tandis que l'apparence est forcément ce qu'elle a l'air d'être, c'est la loi du esse est percipi, n'est-ce pas? Il n'y a rien de plus, rien de moins dans l'apparence que ce pourquoi elle se donne. Alors ces entités sont des entités subjectives, et du même coup, le sujet de l'expérience doit être doté de ce qu'on peut appeler une intériorité, pour dire par là, il doit être doté d'un monde peuplé d'entités subjectives auxquelles lui seul a accès. Et c'est pourquoi on l'appelle intériorité, pour dire que c'est en lui, nous on ne le voit pas, c'est lui qui peut voir les sens d'état. Alors maintenant, le problème auquel j'arrive au moment où j'ai fini mon temps de parole, c'est-à-dire 1 heure, le problème de l'identité personnelle, c'est le problème de subjectiver, le problème de savoir si on va subjectiver l'identité personnelle simplement en introduisant une intentionnalité, ou si on va le subjectiver, la personne, si on va subjectiver le concept de personne et donc les critères d'application du concept de personne, selon le deuxième procédé que je viens d'expliquer, le procédé de l'intériorisation par la voie de la production d'entités subjectives grâce à une figure de langage qui est celle de l'objectification. Bon, 5 minutes, oui. Bon, donc alors, je ne vais pas commenter les textes, mais je vous indique la raison d'être de la sélection et la ligne à suivre. Le premier texte de Locke produit une expérience de pensée qui illustre le sens que prend le dualisme chez Locke, qui est un dualisme de l'être humain et du self. Alors, Locke croit-il à la transmigration? Est-ce que c'est possible? Ça n'est pas vraiment la question. Tout ce qui. Donc, ce n'est pas une objection qu'on peut lui faire, n'est-ce pas que c'est des histoires, c'est des contes fantastiques. Certainement, c'est un conte fantastique, mais le problème, c'est est-ce que nous comprenons, non pas ce qui arrive dans, je ne sais pas si vous avez lu le texte, c'est donc. Il y a une transmigration car une puissance se saisit de l'âme d'un individu qui est le prince dans l'histoire, et elle prend cette âme et elle la met dans le corps de quelqu'un d'autre qui est un savetier. Donc l'idée, c'est une métempsychose par laquelle une âme de prince, avec la mémoire de la vie du prince, envahit le corps d'un savetier, ce qui fait que, donc, ce que nous demande Locke d'accepter, ou la question qu'il pose, c'est est-ce que nous comprenons l'histoire suivante? Car pour saisir le texte, il faut le changer en scénario, n'est-ce pas? Comme si on devait faire un film avec cet épisode. Alors, le film serait le suivant. Un soir, un prince se met au lit et ailleurs, un savetier se met au lit. On peut même imaginer qu'ils sont des couples, n'est-ce pas? Donc il y a madame, la princesse, et puis il y a la femme du savetier. Et le lendemain matin, le savetier se réveille. Ça, c'est no notre point de vue, n'est-ce pas? Le type qui s'était couché dans le lit du savetier et qui était le savetier, donc se réveille. Sa femme voit son mari. C'est toujours le corps du savetier. Mais. Ce savetier dit qu'est-ce que je fais là, n'est-ce pas? Où suis-je? Et il dit je suis le prince. Donc est-ce qu'on peut comprendre que les deux biographies aboutissent à un moment? On peut même penser à un échange, c'est pas dans Locke, mais c'est dans les commentateurs, n'est-ce pas? Où dans le lit du prince se réveille quelqu'un qui dit qu'est-ce que je fais là? Qui est cette dame? N'est-ce pas? Où est ma femme? Donc le savetier se réveille dans le corps du prince et le prince se réveille dans le corps du savetier. Est-ce qu'on peut comprendre cet épisode? Peut-être. Sans doute, n'est-ce pas? On pourrait en faire un film. On peut faire un film de quelqu'un qui se réveille. C'est la même apparence, c'est le même corps, mais c'est pas juste l'apparence, c'est le même corps que le savetier de la veille, mais il produit des assertions qui sont celles du prince et des protestations qui sont celles du prince. Alors Locke nous dit, bon, il y a deux N'est-ce pas? Il y a deux points de vue. Là, pour nous, c'est le sabotier, puisqu'on voit le sabotier. Et donc c'est le sabotier qui est devenu fou, mais pour lui-même, il est le prince qui a eu le malheur de changer de corps. Et donc voilà un conflit irrésolu. Et d'après Locke, ce conflit appelle une décision sur le concept de personne, décision qui consiste soit à maintenir le concept ordinaire de personne, auquel cas le principe d'individuation de la personne du savetier, ou la personne du prince, le principe d'individuation de la personne qui est princière, c'est l'être humain qu'est le prince, donc c'est un critère physique qui va jouer. En revanche, en première personne, dit-il, n'est-ce pas, si c'était à nous que ça arrivait, n'est-ce pas, on dirait, j'ai changé de corps, c'est terrible, n'est-ce pas, personne ne me croit, et donc je dois maintenant vivre sous l'identité, je dois vivre pour les autres sous une identité qui n'est pas celle que je m'attribue à moi-même, puisque mes souvenirs sont ceux du prince. N'est-ce pas, c'est dans le corps du savetier, nous avons mis la conscience du prince, dit Locke. Et donc il dit, ça n'est pas décidé dans le langage, il faut décider si on va donner pour critère d'identité du concept de personne le critère ordinaire, qui est donc l'être humain, ou est-ce qu'on va adopter le critère du sujet lui-même, le critère en première personne, et donc à ce moment-là, ce critère, c'est la mémoire du passé. Et donc, comme on sait, Locke recommande, préconise une réforme du concept de personne qui consiste à abandonner le critère de l'être humain et à retenir le critère psychologique de la mémoire. Alors, l'histoire de Locke est extrêmement courte et donc les questions ne les questions qu'on aura envie de lui poser n'ont pas de réponse dans le texte. C'est pourquoi j'ai mis le texte de Voltaire qui est une espèce de propagande pour la réforme que propose Locke, mais alors qui a cet avantage que Voltaire étant un littéraire, si je puis dire, un dramaturge, un auteur. Il ne s'en tient pas tout à fait à la version de Locke, il se sent obligé de la rendre plus narrative. Et donc il donne des noms. Il donne des noms. Et donc ce qui est intéressant dans son texte que je n'ai pas le temps de commenter, c'est que la personne à qui il a, la personne qui est ici en cause et au sujet de laquelle nous posons la question de savoir quel est le critère d'identité pour cet individu, eh bien, il s'appelle Jacques. Jacques. D'où la question, qu'est-ce qui constitue la personne de Jacques? Réponse, ça n'est pas son corps, c'est sa mémoire. Car dit-il, comme vous voyez dans le deuxième alinéa, si Jacques avait entièrement perdu la mémoire, son existence passée lui serait aussi étrangère que celle d'un autre homme. Il ne serait pas plus le Jacques d'hier, la même personne, qu'il ne serait Socrate ou César. Donc, si nous appliquons le concept réformé de personne, le concept produit par Locke, alors à ce moment-là, toute perte de mémoire fait disparaître de la biographie psychologique de la personne la partie de la vie qui est ainsi effacée et qui devient, pour le sujet, aussi étrangère que peut l'être la vie de quelqu'un d'autre. Donc le prodige de ce texte, qui demanderait à être commenté dans le détail, c'est d'employer les noms propres, et donc de se soumettre à la logique des noms propres, pour les personnes redéfinies à la façon de Locke, et d'en arriver à dire, comme le fait Voltaire, n'est-ce pas? Le Jacques d'aujourd'hui n'est pas plus le Jacques d'hier qu'il n'est Jules César. D'où problème logique, n'est-ce pas? quand nous disons Jacques, est-ce que nous parlons de Jacques ou est-ce que nous parlons de Jacques d'aujourd'hui, par opposition à Jacques d'hier? Alors ce que Voltaire n'a pas donné, c'est une règle pour réformer la logique des noms propres et l'adapter à la nouvelle logique du concept d'identité personnelle, c'est-à-dire comment puis-je nommer un self? Et il ne se pose pas la question parce que comme il veut écrire, comme Voltaire ne peut pas ne pas écrire en bon français, n'est-ce pas, il n'y a pas de moyen de produire de façon intelligible un discours sur Jacques qui appliquerait à Jacques le nouveau concept de personne. La seule façon dont on peut exprimer le nouveau concept lequin de personne, il faudrait donner la parole à Jacques. Il faudrait donner la parole à Jacques. Il faudrait que le nom propre disparaisse. Il faudrait qu'il dise je ne suis pas celui dont vous me parlez, puisque je ne me souviens pas d'avoir fait tout ce que vous lui attribuez. Mais Voltaire veut, comment dire, il veut que Dieu juge Jacques d'après le concept de ou que nous jugions Jacques d'après le nouveau concept de personne, et donc il faut retrouver la troisième personne. Le texte illustre l'impossibilité où nous sommes de retrouver la possibilité de parler de la personne de Jacques en respectant le fait que ce Jacques a adopté l'idée qu'il était une personne lochéenne. Donc sans l'avoir voulu, le texte de propagande de Voltaire pour la réforme du concept révèle que cette réforme, nous ne pouvons pas la mener à son terme. Alors j'ai mis deux autres textes, je dis juste pourquoi je les ai mis. Celui de William James est, à mes yeux, une sorte de moment ultime de du dédoublement lochéen. Et alors en même temps, de même que d'une certaine façon Voltaire ne peut pas s'empêcher de bien écrire et de rendre narratives les idées des philosophes, de même James doit mettre un peu d'intérêt dans ce dualisme. Et donc nous voyons le dualisme se déplacer de ce que on pourrait appeler une psychologie purement réflexive ou cognitive, c'est-à-dire comment le sujet se connaît-il dans son identité, passage de ce genre de psychologie, de psychologie qui consiste dans un savoir, dans rendre compte d'un savoir, nous passons d'une psychologie cognitive à une psychologie que j'appellerais morale, où il est question du caractère, des buts, des intentions, des intérêts, des désirs, des passions, et de tout ce que William James appelle « excitement ». Qu'est-ce qui fait l'excitement pour quelqu'un ? Donc vous voyez dans le texte l'idée que chacun de nous a un esprit, et dans cet esprit il y a des tas d'idées qui se regroupent en complexes. C'est l'origine de la notion freudienne de complexe, n'est-ce pas ? C'est ces regroupements d'idées. Et alors certains systèmes d'idées viennent occuper le centre de la conscience, du champ mental. Et alors à ce moment-là, ça se traduit par le fait que l'individu est entièrement absorbé par par ce que le groupe d'idées lui indique, comme motif de excitement, n'est-ce pas, motif de se passionner, motif de s'investir. Et puis alors les autres idées qui flottent un peu dans les marges et sont en quelque sorte pas refoulées, mais un peu réprimé, un peu marginalisé. Mais d'où l'exemple, n'est-ce pas ? Il y a des moments où le président des États-Unis est complètement absorbé par la vie politique, c'est quand il est à la Maison-Blanche, et puis pendant les vacances, il est censé être en Virginie occidentale, là dans la montagne, et là, il a complètement oublié la politique, il ne s'occupe que de pêcher des poissons, il est entièrement dans des idées d'homme de la nature. Et donc son caractère change, et nous dit James, si le changement était définitif, alors il aurait une autre personnalité. Donc là, il veut rendre compte de l'expérience religieuse, du point de vue d'une psychologie de la conversion, et donc de quelqu'un qui était complètement devenu un déchet humain, et tout d'un coup à l'expérience d'être d'une renaissance et de réapparaître sauvé, born again, n'est-ce pas, après un changement de personnalité qui s'expliquera, d'après Jen, par ce déplacement d'un groupe d'idées du centre mental vers les marges et des marges vers le centre mental. Et alors, ce texte me frappe par le fait que, exactement comme dans le texte de Voltaire, officiellement, le but du texte, c'est de subjectiver le concept de personne, mais en réalité, comme James conserve aussi le point de vue de la troisième personne, puisqu'il ne nous parle pas de lui, mais du président, son exemple, c'est celui de quelqu'un dont il parle, il doit décalquer la différence qu'il fait entre une personnalité et une autre sur la différence que nous faisons entre un individu humain et un autre. Alors, de même que Voltaire doit opposer, de dire la différence entre Jacques aujourd'hui et Jacques d'hier, c'est la même qu'entre Jacques et Jules César. De même, ce que dit William James, c'est que la différence entre le président au champ, si je puis dire, et le président à la Maison-Blanche, c'est la même différence du point de vue pratique, du point de vue que s'il y avait un autre homme qui avait remplacé l'homme que nous connaissions avant. Donc il y a deux personnalités dans un seul homme, mais la différence des personnalités, nous l'exprimons sur le modèle de la différence que nous faisons entre un homme et un autre homme, ce qui veut dire que c'est toujours la logique de l'individuation des êtres humains qui, en sous-main, garde le contrôle sur la logique de l'individuation des selves, des moi, des personnes subjectives. Et donc, ces textes montrent que la philosophie la philosophie de l'égologie, la philosophie du self, n'a pas véritablement fourni ce qu'elle aurait dû fournir pour être plausible, à savoir un principe d'individuation d'un moi, un critère pour dire si un moi est le même moi qu'un autre moi, ou s'il est est-ce le même ou est-ce un autre qu'un autre moi. En réalité, nous sommes renvoyés à la différence entre un être humain et un autre être humain. Alors, quant au texte de Proust, on peut le lire de plusieurs façons, soit comme Proust écrivant une dissertation de philo où il applique des idées à la James. Ben, c'est l'idée. Pourquoi? C'est le prince et le savetier de nouveau. Pourquoi, comment se dit-il que quand je me lève, je me réveille ce matin, je ne saisis pas le moi de Bruno Gneisenau, par exemple, comme personnalité, n'est-ce pas? Puisque j'ai perdu. En dormant, la mémoire de moi. Donc, je pourrais prendre n'importe quelle personnalité, et il pourrait prendre n'importe. Mais bizarrement, nous nous retrouvons tels que nous étions, et non pas avec. N'est-ce pas, nous. Qu'est-ce qui fait qu'on retombe sur ses habitudes et ses personnalités d'avant, alors que, en fait, on l'avait perdu? Eh bien, c'est un problème de James, qui, les principes de psychologie, a une réponse de James, c'est que nous reniflons. Nous reniflons. Intérieurement, bien sûr, n'est-ce pas, il y a un feeling qui fait que de tous les moi qui sont là, il y en a un qui sent comme moi, c'est celui-là, donc, que je ressaisis le matin. Et donc, c'est comme ça qu'il s'explique que je ne me trompe jamais. Et bien, il y a une odeur infaillible qui fait que je retombe sur la mémoire qui est la mienne au lieu de au lieu de n'est-ce pas, si vous voulez, il pourrait arriver comme le vent, je me trompe de pantoufles, je prenne vos pantoufles et non pas les miennes, mais il n'arrive jamais que je prends votre moi et non pas le mien. Pourquoi? Parce que les pantoufles, c'est à l'extérieur, tandis que le procédé par lequel je remets la main sur le moi qu'il me faut est une odeur intérieure. Mais, si vous voulez, cette page de James fait ressortir le point faible de la doctrine, c'est que quel est le moment où je peux concevoir le moment où j'ai à choisir entre toutes ces pantoufles? Ou à l'hôtel, si on met nos chaussures pour qu'elles soient nettoyées dehors, où sont mes chaussures? Mais, quelle est l'expérience dans laquelle j'ai devant moi une panoplie de selves et je dis, ah ben, celui-là, c'est le mien. je le prends. L'idée que le self est comme une sorte de manteau et qu'on peut se tromper est absurde. Non pas parce que, non pas parce qu'on aurait détecté une raison pour laquelle on ne se trompe jamais de self, mais pour la raison que il n'y a pas une expérience dans laquelle j'ai le choix, où j'ai une hésitation, où je suis. Il n'y a pas une expérience où je suis devant plusieurs moi avec la question de savoir à qui les attribuer.